Bienvenue dans Ding Dong, la nouvelle émission de Décodeur, votre podcast déco. Dans Ding Dong, on va parler conseils pratiques, trucs et astuces pour la maison. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque épisode, j'inviterai un expert qui répondra à 10 questions sur une thématique bien précise, ces fameuses interrogations du quotidien qu'on a tous un jour ou l'autre. Petits espaces, salle de bain, sol, couleurs, rénovation. Je lance le sujet sur Instagram, vous m'envoyez vos questions et on essaye d'y répondre ici, tout simplement. Ce matin, je suis avec Hortense de La Roncière qui a créé le site onrangetout.com. Ce site est une pépite si vous cherchez des rangements en tout genre, des accessoires tout simples, pratiques et beaux, que vous pouvez retrouver classés par type de produit ou selon vos besoins, pièce par pièce. Organisation des placards, des tiroirs, des vêtements, de la nourriture, c'est la caverne d'Ali Baba du rangement et des bonnes astuces qui viennent simplifier notre quotidien. Il faut dire que des conseils pour bien ranger, on en a toujours besoin. C'est vraiment LE sujet dans la maison. Alors je suis vraiment contente d'accueillir Hortense qui va pouvoir nous éclairer sur ce point, ou plutôt sur 10 points bien précis. Bonjour Hortense.
Bonjour Hortense.
Bienvenue, on enregistre à l'hôtel Panache. Juste avant de commencer, j'ai mes 10 petites questions. Comment vous est venue l'idée de créer ce site? C'est que vous êtes un peu maniaque ou au contraire c'était pour vous discipliner?
C'était plutôt la deuxième solution. Je suis un peu... Disons que c'est une thérapie pour moi, ce site. J'avais du mal à trouver des accessoires de rangement qui me donnent envie de ranger. Et je me suis dit, je ne trouve pas et il faut que je crée ça pour moi, tout simplement. Et donc ça m'a aidée à ranger. Et je suis persuadée que les meilleurs profs de maths, ce sont ceux qui ont été les plus nuls en maths. Et moi, je n'étais pas forcément ordonnée à l'origine. Et du coup, j'ai développé pas mal d'astuces pour m'aider à devenir organisée.
Et maintenant, vous l'êtes ?
Et maintenant, je le suis, oui. Pas maniaque, pas encore.
Non, pas encore. Bon, alors, première question. Comment réussir à tout ranger dans une mini-cuisine, quand on a une petite cuisine?
Alors, c'est une très bonne question, parce que la cuisine, c'est à la fois la pièce la plus simple à organiser et la plus compliquée à organiser. La plus simple, parce qu'il y a une multitude d'options pour ranger un espace comme la cuisine. En revanche, la plus compliquée, parce que nous, Français, on a tendance à acheter la dernière yaourtière qu'on n'utilisera qu'une fois dans l'année, ou le mixeur improbable. Et du coup, on se retrouve vite envahi dans une cuisine. Alors, quand on a une petite cuisine, on peut croire que c'est pas bien, mais c'est très bien d'avoir une petite cuisine, parce que plus l'espace est petit, plus c'est facile de ranger ses affaires près de la zone d'utilisation. Et pour une cuisine, c'est indispensable d'avoir les casseroles près de la gazinière, d'avoir les plats près du four, d'avoir les couverts près de la table de cuisine, etc. Donc quand l'espace est restreint, c'est plus simple de faire comme ça. Alors si la cuisine est petite, moi je conseille, déjà dans tous les cas, de ne pas surcharger le plan de travail pour deux raisons. Déjà quand il y a trop de choses sur le plan de travail, on a une impression de fouillis, on peut se sentir un peu oppressé. Et en plus, on salit plus en fait. Forcément il y a un peu de graisse, etc. Et les objets se salissent beaucoup plus sur un plan de travail. Donc, quand c'est possible, rangez au maximum à l'intérieur, dans les placards. Exploitez les espaces que vous avez à l'intérieur au mieux. Donc, vous pouvez investir les portes en suspendant, par exemple, une poubelle, en suspendant des crochets pour accrocher les torchons. On peut mettre des étagères adhésives. Bref, on peut mettre plein de rangements sur une porte. Il faut bien s'assurer que la porte ferme une fois qu'on a mis le rangement, qu'on a un dégagement suffisant. On peut aussi optimiser tous les placards. Donc, pour une cuisine, ce qui est un peu compliqué, c'est que parfois, on a des placards très profonds. Et du coup, on va retrouver au fond, une conserve de marron confit qui date d'il y a 3 ans et qu'on aura complètement oublié. Voilà. Donc, l'idée, c'est de rendre accessible ce qui est au fond. Donc, pour ça, il existe par exemple des étagères à gradins qui permettent de mettre en hauteur les produits du fond et de pouvoir y accéder. On peut aussi utiliser des plateaux tournants. Moi, j'adore les plateaux tournants parce qu'il suffit de donner un
petit
coup.
Dans le placard, on le met.
Dans le placard, on peut le mettre dans le placard. On peut le mettre sur le plan de travail aussi, mais on peut le mettre dans le placard et ça permet d'accéder aux produits qui se trouvent au fond. Aussi, pour les coins des placards, il existe des étagères en forme de coin et qui permettent d'accéder, justement, de voir en hauteur les produits qui y sont et puis d'utiliser la place qui est dans le coin.
Oui, ce on que gagne fait pas, de la place.
Voilà, ouais. Ce que fait pas un plateau tournant, par exemple. Si, par exemple, vous avez des étagères très hautes et que vous n'utilisez pas toute la hauteur de l'étagère, vous pouvez glisser des étagères coulissantes pour exploiter la hauteur et puis ranger, par exemple, des tasses à café, etc. Oui, ça existe.
D'accord.
Qu'est-ce qui existe aussi par exemple pour l'évier. Pour l'évier, souvent, on a des problèmes sous l'évier parce qu'il y a les tuyaux de l'évier qui empêchent d'installer une étagère. Et donc, il existe des étagères qui sont extensibles, qui prennent toute la largeur de l'évier et sur lesquelles on peut glisser les tuyaux. Les tuyaux peuvent passer et du coup, là, ça permet de ranger, par exemple, tous les produits d'entretien et de ne pas perdre toute cette place qu'on perd parfois dans les...
Voilà, oui, bien sûr, l'évier. Souvent, on a un espèce de grand cube un peu vide, on a un caisson avec tous les produits et c'est vrai qu'il...
Exactement, il y a une place perdue, très précieuse qui est perdue.
Ouais, ouais.
Pour les cuisines, mais il y a tellement de choses. Par exemple, oui, par exemple, vous avez un grand tiroir de cuisine, vous pouvez ranger vos casseroles, vous n'avez pas tellement de placards pour vos casseroles, vous pouvez ranger vos casseroles à la verticale dans votre tiroir de cuisine et il y a des séparateurs pour que chaque casserole reste bien positionnée à la verticale et du coup elles deviennent très accessibles. Vous n'avez pas à soulever toute la pile de casseroles pour prendre la poêle qui se trouve en dessous. Donc là, moi j'adore ce produit. Donc voilà, pour les petites cuisines, c'est pas, il faut se dire déjà que ce n'est pas un problème d'avoir une petite cuisine, c'est presque une chance. Et il y a 20 000 options.
20 000 solutions, voilà. Ouais. Super. Alors si on reste dans la cuisine, est-ce qu'il y a une organisation idéale dans le frigidaire ? Dans le réfrigérateur, on peut dire, pardon.
Alors, le réfrigérateur, la problématique du réfrigérateur, c'est la péremption des aliments, souvent. Donc, alors, il y a deux choses. La première, regardez ce que vous dit votre fabricant de réfrigérateur, parce que chacun a ses zones de froid qui sont différentes, mais il faut bien respecter
les
zones
de froid. C'est pas tous les mêmes.
Non.
On sait pas, moi, je me dis, c'est tout le temps, d'ailleurs, en haut le plus froid. Et en fait, non.
Eh bien, pas forcément. Oh. Pas forcément, alors, parce que, donc moi je suis pas une experte, mais les réfrigérateurs américains c'est différent,
D'accord.
Bref. Donc là il faut bien regarder ce qui est donné. Donc normalement il y a trois zones. Il y a les tiroirs pour les légumes, il y a une zone froide, entre 0 et 4 degrés, donc c'est pour la viande, le poisson, etc. Et puis il y a la zone fraîche qui est de 4 à 6, et qui est plus pour les produits laitiers, les produits cuisinés, etc. Donc là il faut respecter cette zone de froid. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous revenez, vous avez fait vos courses, vous revenez avec toutes vos courses, et c'est le moment idéal pour revoir l'organisation de votre frigo. Si vous faites vos courses une fois par semaine, une fois par semaine, vous revoyez l'organisation de votre frigidaire pour placer devant les produits à plus courte DLC, ou en tout cas la DLC la plus proche, la date limite de consommation. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Parce que, surtout si vous avez des enfants, en général, les enfants, ils prennent les premiers produits qui se trouvent devant le frigo, ils oublient tout ce qui se trouve au fond. Donc, si vous voulez qu'ils consomment les produits qui vont bientôt se périmer, mettez-les bien devant, et donc, comme ça tourne, il faut le faire régulièrement. L'autre chose, pour le frigo, et c'est propre un peu aussi à tous les placards, compartimentez votre frigo. Par exemple, il existe des grands bacs transparents dans lesquels vous pouvez mettre tous les yaourts, un bac où vous pouvez mettre les pâtes brisées, etc. Et du coup, comme chaque chose est compartimentée, vous voyez tout de suite ce que vous avez et vous n'allez pas racheter des produits que vous avez déjà. Et donc, ça permet de voir...
Qui sont au fond, coincés derrière la salade, etc.
Exactement,
oui, faire par thématique, en fait.
Voilà,
thématique de produit.
L'autre chose aussi, il existe des solutions pour conserver plus longtemps, en particulier tout ce qui est fruits et légumes. Par exemple, il y a des boîtes pour les fruits rouges. Les fruits rouges, ils ont tendance à s'abîmer rapidement parce qu'ils baignent dans leur jus. Et donc, quand ils baignent, ils moisissent. Et donc, il existe des boîtes qui font un peu passoire, où le jus est à part et du coup, le fruit est stocké. Et donc là, vous conserverez plus longtemps vos fruits et légumes. Pareil, moi je pourrais en parler des heures.
Hein. Ah ouais, on adore.
Pareil dans les tiroirs, des tiroirs à légumes. En fait, ce qui abîme les fruits et légumes, c'est la zone de contact. C'est que quand c'est sur du dur, la zone de contact, c'est souvent cette zone qui s'abîme, puis ça pourrit, puis après ça... Et donc, il existe des sortes de tapis aérés, donc mousseux, avec l'air qui circule, et qui permettent de faire une sorte de molleton pour éviter que les fruits s'abîment, et du coup, ils sont conservés beaucoup plus longtemps. Et ça, vous le posez dans votre tiroir à légumes. Pour le frigo, donc je dis un peu en vrac, ouais. Mais par exemple, tout ce qui est fine plastique, il faut que vous les retiriez souvent.
Sur quel type de produit, par exemple
vous allez avoir des fruits et légumes et ils seront dans du plastique.
Ouais.
Ouais. Ça, vous enlevez tout de suite le plastique, parce que les fruits et légumes se conservent moins bien dans du plastique, et donc vous les laissez à l'air libre.
Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, j'ai appris, ça a rien à voir avec le rangement, mais qu'il y a certains fruits et légumes, même qui viennent faire pourrir ceux d'à
exactement.
Côté, selon la typologie de...
Par exemple, banane.
Ouais.
La banane.
Faut pas mettre à côté de...
De la pomme, par exemple, parce que ça peut...
Voilà. C'est drôle.
Et puis, il y a des fruits et légumes qui se gardent à l'extérieur.
Oui.
Donc, ou les tomates, ouais. Ça se garde ouais. À l'extérieur.
Les œufs, tiens.
Les œufs, alors, bon,
il y a deux options.
Il y a deux écoles. Ouais. En fait, ce qu'on dit, c'est si vous les achetez au frais, vous les remettez au frais. En revanche, s'ils étaient à température ambiante, vous pouvez les laisser à température ambiante.
Ok. Alors, rien à voir, que faire avec tous les câbles dans la maison? Comment on gère ça?
Alors, les câbles, le problème, souvent, c'est la propreté. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais souvent, c'est une zone où on ne va pas trop voir. Et ils ont tendance à s'encrasser. Et puis, il y a souvent...
C'est vrai.
Donc, il faut penser à les nettoyer régulièrement. Parce que tout de suite, déjà, ça fait... on les voit moins quand ils sont propres.
On les nettoie quoi, d'ailleurs? Avec
Du vinaigre blanc.
Ah oui, d'accord.
Façon, le vinaigre blanc, ça marche partout. Hein. mais aussi, passer le balai régulièrement. Parce que c'est vrai que c'est une zone qu'on oublie. Ensuite, les câbles, il y a deux... Vous pouvez, donc si vous avez beaucoup de câbles, déjà c'est bien de faire un tri. Parfois, il peut arriver qu'on garde des câbles et on n'a plus l'appareil qui correspond aux câbles. Donc, les amener à la déchetterie, voilà, se débarrasser de ces câbles, c'est bien, parce qu'on en a plus qu'on pense, qui ne servent à rien. Ensuite, une fois qu'on a tous nos câbles, si vous en avez beaucoup, peut-être que vous avez besoin de les regrouper. Et donc, il existe des velcros, mais par des élastiques, etc. Et ça permet qu'ils prennent moins de place. Et si aussi ils sont très longs, vous pouvez mettre des bobines pour les raccourcir. Parce que c'est souvent le fait qu'ils soient démesurés par rapport aux besoins qui donne cette impression de fouillis. Après, vous pouvez, donc si, je ne sais pas, ça dépend des types de câbles. Mais si c'est des câbles, par exemple, pour la télé, le vidéo,
oui, ou
je ne sais pas quoi.
La box Wi-Fi,
la
ou
box
des choses
Wi-Fi,
comme ça.
Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez repérer à quel câble correspond à quoi ? Soit vous pouvez mettre des étiquettes, hein, il existe des étiquettes à câbles. Vous pouvez mettre sinon un scotch de couleur, et puis la prise aussi, vous mettez la même couleur, donc vous savez à quoi ça correspond. Et donc vous repérez beaucoup plus facilement les câbles. Autre chose aussi, il existe, bon, il y a plein de choses pour les câbles, il existe des accessoires qui permettent de coller le câble au bureau. Par exemple, on a un câble pour son téléphone, et puis il tombe tout le temps par terre. Donc vous avez des sortes de rails que vous mettez de couleur ou blanc pour que ce soit complètement inaperçu. Et vous mettez dedans, vous imbriquez dedans votre câble. Et comme ça, vous le retrouvez facilement et il ne tombe pas par terre.
Ah oui, c'est une bonne astuce.
Ouais.
Et justement, en parlant de travailler, comment s'organiser quand on travaille dans le salon et au moment de tout ranger ?
Ah, alors moi j'adore cette question, parce qu'avec le télétravail, tout le monde est un peu concerné par ça, et nous on a un produit chouchou qu'on appelle le bureau nomade, qui se décline dans toutes les couleurs, parce que quand on veut ranger, il faut se faire plaisir, donc voilà, autant choisir quelque chose qui nous plaise et qui soit beau, et donc ce bureau nomade, en fait c'est une sorte de casier, mais vous pouvez trouver autre chose, mais l'idée c'est d'avoir un casier dans lequel vous pouvez mettre votre ordinateur, vos crayons, voire votre mug, quoi, tous vos accessoires de travail qui se transportent comme une petite valise. Et par exemple, un matin, vous dites, moi aujourd'hui, je vais travailler sur la table de la cuisine. Vous le transportez, c'est tout votre bureau que vous emmenez et vous êtes sur la table de la cuisine. Si ce jour-là, vous voulez aller dans le salon, ben, vous changez, vous n'avez pas d'espace dédié, mais toutes vos affaires de bureau sont regroupées. Et quand vous avez fini de travailler, vous remettez tout dedans. Et vous le rangez dans un placard quelconque. Et l'avantage, c'est que quand vous ne travaillez plus, vous n'avez pas cette impression d'être envahi par votre boulot, quoi. Vous êtes dans un autre espace, vous n'avez pas l'impression de dîner dans votre bureau. Et ce bureau nomade, vous pouvez, si vous êtes plusieurs à être en télétravail chez vous, chacun choisit sa couleur et vous pouvez l'étiqueter, quoi. Bref, il y a plein de choses à faire.
Ok. Comment se créer un coin buanderie ? dans un appartement? Parce que quand on a une maison, je spécifie dans un appartement, parce que quand on a une maison, parfois c'est à la cave où on a un petit coin, c'est plus facile d'avoir toutes les machines, les rangements. Dans un appart, c'est un petit peu moins évident.
Normalement, c'est la salle de bain, souvent.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une buanderie? Il faut le lave-linge, peut-être un sèche-linge, si vous voulez, un étendoir, un bac à linge et un panier pour le linge propre. En gros, plus des rangements pour les produits d'entretien. Donc, si vous n'avez pas de place, que vous voulez un sèche-linge dans votre buanderie, vous pouvez superposer le lave-linge et le sèche-linge l'un au-dessus de l'autre. Et donc là, vous gagnez de la place. Pour les étendoirs, il existe pas mal d'options d'étendoirs. Il existe des étendoirs qui se posent, si vous avez une baignoire, qui se posent sur la baignoire, ou bien qui se posent dans la douche, qui sont vraiment adaptés à la taille d'une douche. Ou bien
donc en hauteur?
Non, alors vous avez une douche, je ne sais pas, un bac à douche, ça fait 80 par, on va dire, par 60, j'en sais rien.
Ouais.
Et donc l'étendoir a pile cette taille, il est extensible. Et là, vous étendez, quand vous ne prenez pas votre douche, vous pouvez étendre votre linge, et puis après vous le pliez et vous l'enlevez. Mais ça permet d'utiliser l'espace de douche comme espace de séchage.
Ouais.
Il existe aussi tous les étendoirs assez classiques qui sont en fil, que l'on met au-dessus d'un plafond et puis qu'on peut rétracter quand on ne les utilise pas. Il existe aussi, on peut utiliser les portes, investir les portes pour sécher. Donc il existe des étendoirs qui se suspendent à la porte de la salle de bain. Et puis quand on ne l'utilise pas, il se rabat. Donc en fait, ça prend zéro place. Donc pour l'étendage, normalement, ça ne devrait pas être un problème. Après, il faut vérifier que vous avez une bonne aération.
La bonne aération, et dans la salle de bain.
Puissiez, donc c'est souvent plutôt ça le problème.
C'est comme ça qu'on se retrouve avec l'étendoir dans la chambre.
Ah oui, non, mais ça surtout
sur le
pas.
Lit. Ah bon, pourquoi surtout pas?
Ben, c'est pas très agréable. Quoi.
Oui, c'est moche. Oui.
C'est moche, c'est pas très agréable. On se
prend les pieds dedans.
Et puis du coup, la chambre devient un peu humide. Donc l'idéal, c'est quand même d'utiliser d'utiliser la salle de bain. Si vous avez la chance d'avoir un espace extérieur, c'est de mettre à l'extérieur quand il pleut pas, quoi. Donc ça peut être une solution. Il existe aussi des étendoirs sur les balcons pour les qui se posent sur un balcon.
On n'a pas trop le droit, si, d'étaler son linge sur un balcon.
Parce que c'est à l'intérieur.
Ah,
on met
l'étendoir
côté privé.
Oui.
Donc là,
oui, mais même ça, on a le droit. Oui, je croyais qu'on n'avait pas le droit de suspendre ne serait-ce qu'une serviette à son balcon en ville.
Sur la rambarde. Mais là, il ne sera pas sur la rambarde.
Oui,
en fait,
c'est
il s'appuie sur la rambarde.
Ouais.
Vous me direz si ça marche. ensuite, il y a les bacs à linge. Les bacs à linge, s'il n'y a pas du tout de place, l'idéal, c'est un bac en tissu qui se rabat, qui ne prend pas de place. Moi, je conseille toujours d'avoir deux bacs à linge.
À linge sale, vous voulez dire?
Là, linge sale.
Ah, oui.
Oui, panier à linge, pardon.
Panier à linge, oui.
Pour la couleur et pour le blanc. Parce que ça permet que tout le monde fasse le tri, que ça ne revienne pas toujours à la même personne.
Alors, plutôt couleur blanc ou,
l'idéal,
ou par type
trois,
de matière
ça
ou...
peut... L'idéal, c'est trois. C'est délicat pour les pulls, la soie, etc. Blanc et couleur. Après, si on ne peut pas en avoir trois, en général, quand l'espace est réduit, c'est plus compliqué. Au moins deux.
De toute façon, ils sont plus petits dans ces cas-là, non ?
Oui, oui, ils sont plus petits. En fait, il existe des bacs assez étroits où il y a trois compartiments. Et puis, comme ça, on met en fonction du produit.
Ouais.
Les produits d'entretien, ce que je conseille, c'est d'investir les murs. On oublie très souvent les murs. Dans une salle de bain, ce n'est pas très grave d'avoir des étagères. Et donc, là, de mettre des étagères pour les produits de lessive, etc., dans des bacs en plastique qu'on retire facilement. Après, il reste le panier à linge propre. Donc, il y a toute la partie repassage dont on va parler, et puis le panier à linge propre. Donc soit vous le mettez sur une étagère, mais il faut une étagère relativement profonde, soit vous le mettez sur le lave-linge, et comme ça vous posez votre linge propre là-dedans. Et la partie repassage. La partie repassage, donc...
Si on repasse, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde. Alors moi, je dois être classique. Moi, j'adore repasser. Enfin, j'adore repasser. J'adore que ce soit repassé.
Moi aussi, j'aime bien.
J'ai l'impression qu'il y en a plein qui disent « Oh non, le repassage, non, vraiment... »
Ah, c'est vrai,
il y en a de moins en moins.
Ça prend beaucoup de temps.
Ça prend du temps.
Mais il suffit d'avoir... Bah, les hommes, quand même, s'ils portent des chemises, c'est quand même un peu inévitable. On peut faire juste le col, mais...
Oui, il y en a qui font que le col et le devant.
Voilà.
Et après, ils mettent une veste, ni vu ni connu.
C'est vrai que les draps, c'est pas nécessaire, mais c'est tellement joli, un placard où tous les draps sont bien pliés.
Quand c'est du lin, ça va, mais quand c'est du coton, ça peut... Et que c'est chiffonné, oui, c'est moins sympa.
C'est vrai.
Donc, votre conseil pour le repassage,
Pour le repassage, si, par exemple, on n'a pas la place pour avoir une table à repasser, passé. Il existe des nappes, moi, que je trouve merveilleuses. Donc, c'est qui sont carrées, qu'on peut poser sur une table, n'importe quelle table, et on repasse dessus. Elles ont non seulement l'avantage de protéger la table, de pouvoir repasser, et en plus, elles reflètent la chaleur, et donc on gagne en énergie. En plus, c'est plus efficace pour repasser.
Super, je ne connais pas du tout.
Voilà, donc la table à repasser n'est pas indispensable et ça prend beaucoup de place quand même. Donc ça peut être une solution pour les petits espaces.
Alors en parlant de repassage et de vêtements, c'est une question qu'on nous a posée sur le compte Instagram de Décodeur quand j'ai fait un petit sondage, posez-moi des questions pour On range tout. Comment bien s'organiser pour les vêtements qu'on vend sur Vinted ? Alors, on est de plus en plus nombreux à vendre sur Vinted. C'est vrai que ça peut être une petite logistique. Est-ce que vous avez des conseils sur ce sujet ?
Alors, moi, personnellement, je suis un peu une extraterrestre. Je n'ai jamais acheté sur Vinted et je n'ai jamais vendu sur Vinted. Mais mon associée Bérangère, c'est une aficionado de Vinted. L'idéal, d'abord, c'est de trier, de bien sélectionner ses produits, s'assurer qu'ils ne sont pas d'accro et qu'ils sont propres. Voilà. Une fois qu'on a trié, c'est de prendre des bonnes photos, ensuite de les mettre en ligne, mais la photo est primordiale, voilà, parce que c'est ça qui donne envie d'acheter. De tenir compte des saisons, par exemple, de ne pas vendre des maillots de bain sous prétexte que vous en avez là, vous voulez vous en débarrasser, si c'est en plein hiver, il vaut mieux attendre le printemps pour pouvoir bien les vendre. Ensuite, il faut fixer le prix. Alors, quand vous fixez votre prix, il faut bien tenir compte des frais de port et aussi de la marge de négociation, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait toujours
un
peu de négo.
C'est infernal, c'est pas un peu de négo, c'est que négo.
Voilà, donc voilà, que vous ne soyez pas surprise et vous dites, je ne gagne plus rien sur mon vêtement et ça va me coûter plus cher qu'autre chose. Donc bien en tenir compte au début et se dire, voilà, et se dire jusqu'où je peux aller pour négocier, pour que ce soit rentable quand même un petit peu. Autre chose, de bien prévoir les emballages à l'avance, parce que vous allez avoir tout de suite probablement des offres, il faut tout de suite expédier, donc que vous ne soyez pas prise de court et que vous ayez déjà vos enveloppes pour faire partir rapidement. J'ai cru comprendre qu'il fallait être très réactif, un peu comme un site internet, comme nous, vous avez des demandes, il faut répondre tout de suite. Donc tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps, donc il faut être prêt à faire ça. Et je crois qu'il y a des gens qui en ont fait leur métier, du coup,
oui.
Et qui font ça pour
oui,
vous.
Oui, il y a des sites qui font ça pour vous.
Voilà.
Ouais.
Et qui, alors, il y a deux options. Soit
ils peuvent venir chez vous, ou vous pouvez leur faire leur donner, puis vous êtes rémunéré après au lot ou au pourcentage. Oui, non, je connais pas
voilà.
Bien. Mais les vêtements, comment on les conserve quand on les veut plus ? On a fait le tri dans sa penderie, on a fait le ménage du printemps. On a sur 10 pulls, il y en a 3 qu'on n'utilise plus. On va les vendre. Où est-ce qu'on les stock pour bien ranger, s'organiser? On met dans des boîtes sous le lit, on met au grenier, à la cave que...
Alors, ça dépend si vous voulez les vendre tout de suite ou si vous voulez attendre, faire tout le tri, puis tout. C'est valable pour quand on vend, mais c'est aussi valable quand on va donner à des associations,
bien
etc.
Sûr.
Donc, l'idée, c'est de les séparer de votre placard, parce que sinon, vous allez avoir tendance à les garder et tout. Donc, déjà, vous avez fait le principal de se dire, je vais vouloir me séparer de ces vêtements. Donc, les mettre dans des grands sacs. Il existe des grands sacs en tissu ou bien en plastique recyclé qui sont très pratiques parce que très volumineux. Et là-dedans, vous mettez vos vêtements, ils se ferment avec une fermeture, donc ça les protège de la poussière et de quoi que ce soit. Et vous les stockez à un endroit qui n'est pas précieux, quoi, où la place vaut moins cher qu'ailleurs. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un grenier, ça peut être au fond d'un placard que vous n'utilisez pas, ça peut être en haut d'une armoire, bref. Ça peut être aussi dans la cave, mais là, mettez plutôt dans des boîtes étanches.
Voilà. Oui, j'allais vous dire, c'est ma question d'après, quel type de boîte ou de rangement pour le grenier ou la cave ? Il faut faire attention dans la cave à avoir de bons des rangements spécifiques ?
Ah oui. Oui, 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 la cave c'est indispensable, surtout si elle est humide, d'avoir des rangements étanches. Donc là, il y a plusieurs options. C'est des boîtes en plastique étanches qui sont de toutes les tailles, donc vous adaptez en fonction de ce que vous avez à
étanche,
ranger.
Étanche, c'est pas forcément les mêmes boîtes en plastique que pour ranger
non.
Autre chose. Ah
non.
Oui.
Non, parce qu'elles ont un joint, en fait, souvent. Donc, soit elles ont un joint au niveau du couvercle et elles ferment par des clips, mais très fermés. Soit le couvercle englobe un peu la boîte. Et donc, elles sont étanches. Alors, c'est pas pour ça qu'on peut les mettre dans l'eau, les faire baigner dans l'eau, etc. Mais c'est ce qu'il faut pour une cave si on veut retrouver ses vêtements sans qu'ils soient moisis. Aussi, ce qu'on peut mettre dans cette boîte, on peut mettre des antimites. Alors, c'est soit du cèdre, soit de tout simplement un sachet de lavande pour que les vêtements vivent bien leur vie. Mais une fois que c'est là-dedans, vous pouvez les stocker longtemps.
Oui, parce qu'il y a même une odeur dans la cave. Il peut y avoir une odeur.
C'est pour ça que la lavande ou le cèdre, c'est intéressant de les avoir. Il faut savoir que le cèdre, au bout d'un certain temps, il peut s'oxyder. Donc, si vous avez l'impression qu'il ne fait plus d'effet, il suffit de le poncer un petit peu et ça reprend vie. Et l'odeur revient, le parfum revient. Donc.
Ok. Je reviens à la cuisine. Qu'est-ce que vous pensez du compost? C'est quelque chose, on nous parle beaucoup, il faudrait le faire. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose en plus dans la cuisine?
Ah non, c'est pas en plus. Autant Vinted, je suis pas très à l'aise. Alors autant le compost, c'est un peu mon dada.
Donc, je vous écoute, je suis ravie
de votre question.
Ah oui.
Non, c'est pas du tout un accessoire. C'est tellement satisfaisant de faire son compost. Alors c'est, pour moi, c'est pas un effet de mode. C'est pas bon. Parce que
alors peut-être qu'on
bien.
Peut rappeler ce qu'est le compost.
Oui. Tout à fait. Alors, le compost, c'est une solution pour réutiliser ces déchets, les déchets alimentaires, déchets verts, qui éviter qu'ils aillent dans la poubelle, qui surchargent votre poubelle. Et ces déchets verts vont se transformer en une terre, et non seulement de la terre, mais en plus de la bonne terre pour vos plantes. Donc, c'est très vertueux comme parcours. Quand on commence à faire du compost, on réalise qu'en fait, on a beaucoup de déchets verts en fait, qui encombrent nos poubelles et que c'est trop dommage parce que ça a de la valeur, ce déchet. Hein, et donc, autant le transformer en terre. Concernant le seau à compost dans la cuisine, le seau à compost, il sert uniquement à déplacer les déchets qu'on a vers le bac à compost qu'on a normalement à l'extérieur. Le compost, il ne se forme pas dans son seau à compost de cuisine. Mais il est très utile parce qu'à chaque fois que vous allez éplucher une pomme, vous n'allez pas aller dehors pour mettre vos épluchures dans le bac à compost. D'accord ? Dans ce seau à compost, vous pouvez mettre tous les déchets de fruits et légumes. Alors, après, il y a deux écoles. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre les agrumes parce que ça acidifie beaucoup la terre. Il y en a d'autres qui les mettent. Moi, je les mets quand on n'en a pas beaucoup. C'est pas du tout, quoi. C'est pas gênant, voilà. Vous pouvez mettre les coquilles d'œufs, vous pouvez mettre le marc de café, vous pouvez mettre le thé, bon, les tisanes, bien sûr. Bref, il y a plein de produits alimentaires, il y en a qui mettent le riz aussi. Tout ce qui est en fait des produits, tout ce qui est naturel peut aller dans le compost. Votre seau à compost de cuisine, une fois qu'il est plein, vous le videz et vous pouvez même le vider plus souvent dans le bac à compost qui est dehors. Parce que souvent, ce qu'on nous dit, ah, mais il peut y avoir des moucherons ou ça peut sentir mauvais. En général, ça ne sent pas très mauvais parce que vous avez un couvercle. Bon, moi, je n'ai jamais remarqué ça, mais si c'est le cas, il faut le vider et puis vous nettoyez votre seau à compost. Et c'est pas gênant pour la cuisine d'avoir ce seau à compost. Voilà. Après, on n'a pas tous la chance d'avoir soit un jardin, soit un balcon. Alors, il faut savoir aussi que les villes, souvent, donnent des bacs à compost pour le jardin, même pour le balcon.
Ah oui.
Donc, autant en profiter. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir un endroit extérieur pour mettre ce soi à compost. Et de plus en plus, dans les immeubles, il y a des composts partagés. Demandez à la copropriété. Et puis, en plus, c'est assez sympa parce que ça crée du lien entre voisins. C'est un geste très vertueux. Donc, ça peut être dans votre immeuble, mais aussi il y a des jardins publics qui proposent des bacs à compost. Donc, autant en profiter. La seule chose, regardez bien la notice, parce que chacun peut avoir ses règles, si c'est un bac partagé. Regardez ce qu'on peut mettre dans ces bacs partagés.
Oui.
Juste pour compléter, j'ai pas dit la composition d'un compost. Je crois que c'est 2/3 de déchets bruns et 1/3 de déchets verts, en gros. Les déchets bruns, c'est les feuilles mortes, c'est les coquilles d'œufs, le marc de café, ça peut être même les capsules de café. Il y a des capsules qui sont compostables, par exemple, Café Joyeux, je sais qu'ils ont des capsules bio compostables que vous mettez directement au compost. Donc ça, c'est les déchets bruns, et les déchets verts, c'est tout ce qui est, comme son nom l'indique, qui est vert. Si votre compost est sans mauvais, ou s'il y a trop de moucherons, etc., c'est qu'il n'y a pas assez de déchets bruns. Dans ce cas-là, il suffit de rajouter des produits plus secs. Et là, et aussi, il faut bien mélanger votre compost. Et après, ça donne cette magnifique terre.
Vous avez l'air bien branché sur le sujet. Je fais du coup une petite parenthèse sur le site. Dans vos propositions de produits, vous avez un engagement, vous proposez des produits un peu éco-responsables.
Alors, un peu comme tout le monde, on est assez sensible à la question. Donc oui, on essaye d'avoir un maximum de produits éco-responsables. Il y a pas mal de critiques, par exemple, sur le plastique, dans le rangement qui est quand même parfois inévitable. Et donc, de plus en plus, il y a d'autres composants, des remplacements du plastique. Par exemple, il y a des boîtes qui ont l'aspect d'une boîte en plastique qui sont en cellulose. Donc, c'est complètement naturel. Ou bien du plastique recyclé. Donc, de plus en plus, on essaye de proposer ce genre de produits ou des produits en bois. Ils sont tous FSC, c'est-à-dire issus de forêts qui sont gérées durablement. Donc, oui, dès que c'est possible, on cherche ces produits-là, ou tout simplement des produits français pour que le transport soit le plus court possible. Et si c'est pas français, que ce soit européen, pour essayer de réduire un peu l'impact carbone du transport.
Oui. Dernier thème, on n'a pas abordé, c'est un vrai sujet, le rangement, évidemment, on pense aux enfants. La chambre d'enfant, comment optimiser une petite chambre d'enfant, en fait ? Est-ce qu'il existe des rangements gain de place, par exemple ?
En fait, pour les enfants, les règles, elles sont les mêmes que pour n'importe quelle pièce, mais puissance 4. Parce que il y a des problématiques qui existent dans une chambre d'enfant qu'on n'a pas forcément dans les autres pièces. Et la première problématique, je ne sais pas pour vous, mais souvent, une chambre d'enfant, elle est très encombrée. Elle est très encombrée parce qu'on a les vêtements qui deviennent trop petits, on a les vêtements qui vont tout juste et les vêtements qui sont trop grands qu'on a déjà mis là. La même chose pour les jouets qui sont de l'âge de l'année dernière, etc. Donc, la première étape, c'est trier. Mais c'est la base de tout rangement. Il faut d'abord trier et ne répertorier que les produits dont on a besoin à un temps T. Ce qui est pour plus tard, il faut le stocker ailleurs. Ce qui est trop ancien et qui est pour les autres enfants, etc., également, il faut le stocker ailleurs.
D'accord.
Une fois qu'on a fait ça, il faut regarder la disposition de la chambre qu'on a et regarder les types de rangements qu'on a. Et se dire, qu'est-ce qu'on a à ranger dans cet espace-là ? Par exemple, on peut se retrouver avec une penderie immense, alors que notre enfant, il n'a pas tellement besoin de penderie. Et dans ce cas-là, on peut rajouter des étagères à suspendre qui vont former comme plein de petites étagères, qui vont prendre de la place sur la tringle et qui vont permettre de ranger plein de pulls, etc. Dans le sens contraire, on peut avoir une tringle qui est toute petite et nous, pour notre enfant, on a besoin de lui suspendre tous ses pantalons, etc. Dans ce cas-là, il existe des cintres qui ont 4 étages, par exemple, et on peut superposer les vêtements et on gagne beaucoup en espace. Même chose pour les placards. Donc voilà, la méthode, c'est on trie, on regarde ce qu'on a arrangé et on regarde la place qu'on a et on adapte la place qu'on a avec des accessoires pour que ce soit le mieux rangé. Ensuite, pour l'enfant, mais comme partout, parfois on peut se retrouver avec une énorme étagère et du coup, cette place, il faut l'optimiser. Et donc, l'idée, c'est vraiment de compartimenter pour que chaque chose ait sa place. Parce que si un objet n'a pas sa place, l'enfant, il ne saura pas où le ranger. Donc, on ne l'aide pas, quoi. Et c'est la même chose pour nous. Nous, dans une cuisine, on sait où on range les couverts. Ça devient un réflexe. On a nos range-couverts, c'est compartimenté. Et donc, tout l'espace doit être pareil. D'accord ?
Oui.
Autre chose, il faut compartimenter l'espace, il faut exploiter tout l'espace, mais on peut avoir tendance à surcharger en fait un espace, à le rendre. Et là, surtout pas. La règle, parce qu'il y a toujours des règles, hein, comme partout, mais l'astuce plutôt, c'est que il faut garder toujours 20% de vide. Parce que si votre placard il est blindé à craquer, on ne pourra pas rajouter un pull supplémentaire, on ne pourra pas accéder au pull. Même chose pour une boîte, si elle est complètement pleine, ça rend les choses complètement inaccessibles. Donc il faut toujours avoir cette idée qu'il faut laisser 20% de vide. Et en plus, c'est plus agréable, on respire plus, quoi, voilà. Alors, si votre chambre d'enfant, elle est toute petite, il y a toujours des espaces qu'on oublie d'exploiter et qui sont quand même assez précieux. On pense souvent au lit, sous le lit, on peut ranger, mais parfois, on a des pieds de lit qui sont trop bas et on ne peut pas ranger tant que ça. Donc là, le conseil, c'est soit vous changez les pieds, hein, il existe des pieds de toutes les tailles, soit vous mettez des surélévateurs et là, vous pouvez ranger sous le lit vos affaires. Ce que je conseille, plutôt sous le lit, c'est des objets, peut-être les affaires hors saison, des choses qu'on n'utilise pas tous les jours, ou les bottes, voilà, Donc là, il existe des boîtes sous lit en plastique, des housses à compartiments, quoi. Le choix est immense. Même chose en haut des armoires. En haut des armoires, vous pouvez utiliser cet espace pour ranger les vêtements hors saison, ou les couvertures, j'en sais rien, etc. Mmh. Ce qui est très important dans une chambre d'enfant, c'est que ce qui est utilisé tous les jours soit très accessible. Soit très accessible pour vous, mais soit très accessible aussi à l'enfant. Et on oublie un peu ça. Parce qu'on va avoir tendance à mettre une patère à 1m80, mais votre enfant, il mesure 1m20. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas accrocher son manteau s'il ne peut pas accéder à la patère. Donc, mettre les choses aussi à hauteur de l'enfant. Même chose pour les livres. Un enfant, c'est bien donc qu'il ait toujours des livres accessibles et donc ne pas les mettre dans une étagère qui est complètement difficile d'accès pour lui, où il faut qu'il monte sur un escabeau puis il risque de tomber, etc. Et donc d'avoir toujours un petit stock tampon qui se renouvelle, qui est surtout pas surchargé, avec quelques livres et qui peuvent être mis soit dans une boîte, soit dans un joli panier, soit il existe des mallettes en bois qui se transportent. Les crèches, par exemple, ils ont souvent ce genre d'accessoires pour que ce soit accessible pour l'enfant.
Et dernière question, comment faire pour qu'une chambre d'enfant soit bien rangée, justement? Comment l'inciter à ranger? Vous avez un peu effleuré le sujet tout à l'heure, il faut que ce soit à sa hauteur notamment, et il faut qu'il y ait une chose à chaque place, chaque chose à une... Quelle est l'expression? Une place pour chaque chose.
Exactement.
Chaque chose à sa place.
Exactement, c'est ça. Mais il y a d'autres, vous avez raison, il y a d'autres astuces. Moi, la première, c'est ce que je fais pour une fille qui a 10 ans, je lui fais choisir 2-3 accessoires de rangement qui sont adaptés, quand même, donc j'ai un droit de regard, qui sont adaptés à des choses à ranger, donc au contenu qu'elle veut ranger. Le fait de l'impliquer, elle aura plus de plaisir à ranger, parce que c'est elle qui a choisi ses accessoires de rangement. Et souvent, le rangement, on le voit souvent comme un pinsomme. Alors, nous, adultes, parfois, mais les enfants, très souvent. Et puis la phrase « va ranger ta chambre », c'est jamais très motivant quand même, on se dit. Bon. Donc l'idée, c'est de rendre le rangement comme un plaisir, parce que ça peut vraiment être un plaisir, et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Donc s'il a choisi 2-3 accessoires de rangement, si vous l'avez aidé à ranger au début, vous avez rangé avec lui. Si vous l'impliquez, par exemple, on dit... une chose, une place pour chaque chose, et à chaque chose sa place. Ça veut dire qu'il faut étiqueter parfois les boîtes, il faut savoir qu'il y a des Lego dans cette boîte, qu'il y a des Barbie dans cette boîte, etc. Donc si vous lui demandez d'étiqueter, d'écrire lui-même, il sera fier. Et donc il aura encore plus envie de ranger, et voilà, il sera même parfois motivé. L'autre chose, pour l'aider à ranger, et alors ça c'est une chose qu'il faut qu'on s'applique aussi à nous, et qui n'est pas toujours facile, c'est la règle du « un dedans, un dehors ». Moi j'adore cette règle, c'est une américaine qui, bon, c'est très logique hein, comme règle, mais il suffit de le dire. C'est-à-dire que votre enfant, il va recevoir un nouveau jouet, là, on arrive à Noël, il va recevoir un nouveau jouet, bah, dans ce cas-là, il faut qu'il en sorte un, de chez lui, qui va donner à quelqu'un d'autre, qui va, voilà, jeter s'il est cassé, j'en sais rien. Mais on ne peut pas faire rentrer quelque chose de nouveau dans la chambre si on n'en sort pas une autre. Et pour nous, c'est la même chose. Quand on va s'acheter une jolie robe, dans ce cas-là, il faut que je sorte quelque chose que je n'utilise pas depuis un an, etc. Déjà, vous allez voir, on achète beaucoup moins quand on pense comme ça. Et on n'achète que des choses qui sont vraiment indispensables. Ensuite, pour l'enfant, la dernière astuce, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait trier, qu'il ne fallait pas qu'il soit surchargé de jouets, etc. L'idée, c'est de faire tourner ses jouets. Ou ses livres, ou en fonction de son âge, quoi, ses activités. S'il a 4-5 activités du moment, c'est très bien. Et puis, souvent, on en a plus. On peut avoir les Barbie, les Lego, les Playmobil, bon, mais pas tout sortir en même temps. Et par phase, on change les jouets. Déjà, il va avoir l'impression de redécouvrir ses jouets, alors que quand tout est à disposition, il n'en profite pas. Et puis, en plus, ça ne va pas surcharger son espace. Donc voilà, ça a un double effet, c'est aussi vertueux que le compost. Et la troisième, dernière astuce, c'est quand il a fini une activité, c'est de la ranger avant d'en commencer une autre. Il a fini un livre, il va le ranger dans son bac à livres et avant de commencer une autre. Alors c'est très facile à dire, c'est très dur à faire. Mais je pense que là, le mimétisme a beaucoup de rôle, quoi, beaucoup d'impact. Si nous, on le fait, par exemple, dans notre cuisine, on a fini de faire notre pâtisserie et qu'on range tout, on lave sa vaisselle, tout est impeccable après, l'enfant, il voit ça et donc il fera la même chose. En revanche, si nous, on ne le fait pas et puis qu'on lui dit « va ranger tous tes bouquins parce que tu ne vas pas commencer à faire de la peinture », c'est plus dur d'avoir du poids. Et on se rend compte que c'est tellement satisfaisant pour tout le monde quand c'est… Voilà. Parce qu'en fait, le rangement, pourquoi parfois on se dit « mais j'y arriverai jamais », c'est parce qu'on a laissé s'empiler plein de choses, c'est qu'on a un retard complètement dingue. Si ça devient un réflexe, si notre plan de travail, il est tout propre, dès qu'on a… Voilà,
au fur et à mesure,
bah, ça n'a rien à voir, quoi. Et en plus, on a tout de suite le bienfait, on voit tout de suite… que c'est tellement agréable quand on retrouve ses affaires, quand c'est bien rangé, quand on n'a pas à chercher pendant 20 minutes ses clés alors qu'on est dans l'urgence et qu'on a un rendez-vous hyper important. C'est que bénéfique. Donc,
oui, il faut vraiment ranger. Le grand conseil, c'est de ranger au fur et à mesure les choses.
Voilà, ranger au fur et à mesure.
Quelles que soient les pièces de la maison. Les piles de vêtements, c'est pareil. Dans une chambre, du lundi au samedi, on peut accumuler toutes ces tenues et ne pas les ranger. Et le week-end, on se dit, il faut que je range ma chambre.
Exactement. Là, c'est plutôt tous les soirs. Et ça prend 2 secondes et demie, quoi. Ça prend pas de temps. En fait, les règles, c'est toujours les mêmes. C'est donner une place à chaque chose. Compartimenter pour donner cette place à chaque chose. Ranger les affaires près de leur zone d'utilisation. Parce que sinon, on perd beaucoup de temps, quoi, à trouver ces affaires et tout. Ne pas faire entrer trop de choses. Donc, une chose, un dedans, un dehors. Et profiter, quoi.
Bon, ben merci beaucoup, Hortense. C'était passionnant. Merci beaucoup pour toutes ces informations, ces précieuses informations, vraiment, c'était très sympa d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle quand même votre site onrangetout.com où il y a plein de petits produits pour nous aider justement à mettre en place tous ces bons conseils. Merci vraiment, Hortense.
Merci à vous, Hortense.
Au revoir, Hortense, oui. Au revoir.
À bientôt.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.